Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, lorsqu'on bavardera un peu ensemble, vous pourrez vous rapprocher pour que ce soit plus sympa. Mais en même temps, quand vous êtes allé comme ça, ça fait salle bien remplie, c'est super. J'espère que, et je suis sûr même qu'on passera une belle soirée. On ne va pas faire une longue introduction parce que vous n'êtes pas là pour ça. Je vais simplement faire un tout petit peu l'historique des transformations de la ville. Je commence en 1850. Je pense à Napoléon III, qui a voulu changer la ville quand il a pris le pouvoir à Paris. Il venait de Londres, où il avait vu la transformation de Londres qui venait de se transformer. Et il a voulu transformer Paris. Et entre autres, on parle tous des boulevards haussmanniens, etc. Et il a donc, le préfet de Paris, le baron Haussmann, a été son maître de transformation, avec la démolition des vieux quartiers, avec les grandes allées, avec des règles d'urbanisme extrêmement strictes. Et une des volontés de Napoléon III, de Louis-Napoléon Bonaparte, c'était que chaque Parisien aurait un square, un parc, une forêt, à moins de 20 minutes de son domicile. C'était ça son objectif. Donc l'idée et l'envie de changer la ville ne datent absolument pas d'aujourd'hui. Et on peut quand même dire que l'image qu'on a de Paris, du Paris moderne, c'est celle-là. Haussmann a eu, grâce à son travail, son boulevard à Paris, le boulevard Haussmann. Et je pense que Manon Turina, qui est là, aura tôt ou tard, quelque part, son avenue Turina, tout simplement. Parce que entre-temps, il y a eu beaucoup de choses pour changer la ville. Il y a eu des règlements, il y a eu des envies, il y a eu des gens qui ont précédé. Actuellement, il y a des PLUI, il y a des ZAC, des ZAD, des territoires zéro artificialisation, etc. On en parle beaucoup parce que le besoin de changer la ville existe aujourd'hui au moins autant qu'en 1850. Et c'est ce qu'on va découvrir un petit peu grâce à l'équipe qui va raconter un peu comment elle a fait son film. Et après, nous pourrons discuter. Il y a un petit pot aussi pour ceux qui ont envie de prolonger avec Manon. Je lui passe la parole et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'affiche, à la base, c'était François, qui est co-réalisateur du film, qui était censé être là. Il a le pied dans le plâtre. Alors, c'est moi qui ai pris le relais et je suis contente d'être avec vous et merci d'être venu. Le film que vous allez découvrir ce soir, il retrace un peu notre histoire à tous les deux avec François. Nous, il y a 3 ans de ça, on ne s'était jamais intéressé au sujet de la ville d'aujourd'hui, la ville de demain, ou même le monde tout court, la marche du monde en général. On était plutôt profil école de commerce, jeunes diplômés du marketing qui mettaient leur première grande ligne sur le CV. On est parti habiter à Londres, on bossait pour des grandes boîtes et on avait des vies à 100 à l'heure, un petit peu cliché. Puis mars 2020 est arrivé, la crise Covid avec, et on est resté enfermé chez nous pendant le lockdown. Et là, on a pris une énorme claque dans la tête, c'est-à-dire qu'on a pris en pleine tête la réalité qui nous a toujours entourés, qui nous a vu grandir, c'est-à-dire la ville. Le manque de lien social, l'envie de mettre les mains dans la terre, la pollution de l'air, les îlots de chaleur en été et tout ça. Puisqu'on s'ennuyait un petit peu chez nous à la maison et qu'on avait du temps, on s'est mis à enquêter un petit peu sur le sujet de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en ville aujourd'hui et qu'est-ce que ça voudra dire vivre en ville demain? Et en fait, on a mis le doigt sur plein de problèmes avérés. Vivre en ville aujourd'hui, c'est déjà pas génial selon 99,9% des scientifiques. Et demain, ça sera pas forcément mieux. Et on a vite eu envie de mettre des solutions en face des problèmes qu'on venait d'identifier et de découvrir. Et en à peine quelques jours de recherche, on s'est rendu compte que partout dans le monde, il y avait des hommes, des femmes, des collectivités, des collectifs associatifs, mais aussi des entreprises privées qui se bougeaient pour faire en sorte que le futur de nos villes soit désirable et aussi vivable. Pour nous, ça a été hyper compliqué parce que c'est devenu un nouveau driver de vie que de s'intéresser à ces questions-là. Est-ce qu'on quitte nos boulots? C'est compliqué. Comment on annonce ça à nos familles? On a mis 6 mois à prendre la décision pour partir rencontrer tous ces projets. Et on est parti faire un tour du monde, mais aussi il y a plein d'initiatives en France qu'on a documentées. Vous allez les découvrir dans le film. Nous, ça nous a beaucoup inspirés. J'ai hâte que vous envoyiez la petite conclusion qu'on en a faite et savoir aussi ce que ça vous inspire à vous en tant que citoyen de Blois. Et puis d'en discuter après la projection et d'avoir toutes vos questions. Donc bonne projection à tous et à tout à l'heure du coup.
Ça y est, je te vois. T'as filmé ?
Ouais, ça y est.
Avec François, on a toujours vécu dans des grandes villes. Pendant le confinement, tout s'est arrêté. La ville a changé de visage.
Alors on s'est demandé si au lieu de fuir, il n'y avait pas quelque chose à faire. On a découvert que partout dans le monde, beaucoup de personnes se posent les mêmes questions sur l'avenir de nos villes. Et imaginent ce que pourrait être la belle ville de demain.
No podemos trabajar en contra de la naturaleza pensando que la naturaleza nos va a retribuir cosas buenas.
Notre raison d'être, c'est trouver des modèles économiques pour une agriculture urbaine, mais surtout pour une agriculture pleine terre, autour des villes.
Every building should give 20% back of the entire envelope for green areas. I think we stand a reasonable chance to counterbalance the temperature development in dense urban cities.
Un autre avenir dans nos villes est possible. Des villes où la nature a une place, où elle nous fait respirer, nous protège, nous nourrit et nous relie les uns aux autres. Municipalités, entreprises, collectifs, citadins, c'est ensemble que nous devons agir. Il ne tient qu'à nous, qu'à vous, de rendre nos villes plus belles.
Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Manon. Alors je lance la discussion, mais l'idée c'est vraiment qu'il y ait un échange entre vous, le public, les spectateurs et spectatrices, et puis Manon. Manon, tu es la co-réalisatrice avec François Marquès de ce beau documentaire « La belle ville ». Tu l'expliquais juste avant la projection, la genèse du film, la période Covid, vos profils de jeunes cadres dynamiques qui ont eu envie de changement et d'aller découvrir les solutions à travers le monde. Une vingtaine de solutions et d'hommes et de femmes qui nous proposent des solutions. Le film est construit à travers trois chapitres, végétalisé, l'agriculture urbaine et le compost. Vous parlez dans l'introduction du film de la ville de demain, mais le film montre bien que la ville de demain, c'est déjà celle d'aujourd'hui et qu'on peut bâtir le futur avec ce qui est déjà existant.
Oui, bien sûr, c'est même essentiel que de se concentrer sur l'existant. Comme le dit Rudy, je ne sais pas si vous vous souvenez, un architecte à Chicago, 90% des émissions négatives dans nos villes sont dues aux bâtis existants et pas aux nouvelles constructions. Donc c'est chouette de se demander et de se dire comment est-ce qu'on va construire nos villes de demain, mais c'est surtout comment est-ce qu'on va les rénover. Et ça, c'est tout un gros challenge, parce que rénover veut dire réfléchir avec de l'existant, avec des matériaux qui n'ont pas forcément été pensés pour être réfléchis, réutilisés. Et là, c'est vraiment un challenge presque d'économie circulaire que de savoir comment est-ce qu'on va construire la ville sur la ville, la repenser. Et je pense que pour ça, il y a vraiment trois sphères d'action qui sont assez essentielles. C'est déjà être aidé par les institutions publiques pour ça, pour réfléchir les villes à grande échelle, à l'échelle de tout un quartier, de toute une ville, peu importe sa taille. Et aussi, il y a une énorme responsabilité au niveau des entreprises privées, des constructeurs, des paysagistes qui aujourd'hui doivent être accompagnés d'écologues, d'hydrologues et de plein d'autres secteurs d'activité qui à la base n'étaient pas liés à celui de l'immobilier. Et c'est aujourd'hui essentiel qu'ils travaillent ensemble pour réfléchir à cette ville de demain, parce que sinon ça ne sera pas envisageable.
Ce que je trouve très réussi dans ce documentaire, c'est la façon que vous avez de montrer les différentes échelles d'engagement, de Valérie avec son balcon de 4 mètres carrés à des entreprises, des collectivités, la collecte de biodéchets à Milan. Parce que bien souvent, en tant que citoyen ou citoyenne, on peut être un peu parfois fatigué de se dire j'agis à petite échelle, mais là je trouve que c'est ce qui est réussi dans le film, c'est de montrer que toutes et tous, même les petits pas, peuvent permettre d'avancer.
Mais clairement, ça a été notre intention, et c'est surtout ce que les personnes qu'on a rencontrées nous ont fait comprendre, c'était de montrer à quel point toutes les sphères d'action étaient importantes. Il y en a trois, c'est la citoyenneté, donc vous, moi, nous, que ça soit à l'échelle individuelle chez nous, que ça soit comment est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on consomme, comment on réfléchit, comment on se comporte les uns avec les autres et avec ce qui nous entoure, mais aussi en tant que citoyen en association, parce que le nombre peut faire la force aussi, donc en se regroupant. Ça, c'est une première sphère d'action. La deuxième, c'est les entreprises privées qui créent ce qu'on consomme aussi aujourd'hui et qui font un énorme travail sur le marketing et les imaginaires et ce qu'on a envie de consommer ou pas et ce qui nous paraît essentiel ou pas aujourd'hui. Et les institutions publiques, que ce soit à un niveau d'une municipalité, d'une région, au niveau national ou même, par exemple, ici, européen. Et ça, c'est trois sphères d'action qui sont absolument essentielles à se responsabiliser pour que ça puisse fonctionner et être désirable demain. Pour autant, quand on agit à l'échelle individuelle, c'est hyper frustrant. On se sent seul, on peut être fatigué, on peut même devenir un peu aigri. C'est pas facile parce qu'on a l'impression de se priver, de perdre en confort et plein de choses, alors que les autres se privent pas. Et du coup, à quoi ça sert? Quel impact ça a? Si moi, je change toute ma vie et l'effort que ça demande, et on a tous qu'une vie, alors qu'une entreprise, elle bougerait à peine le petit doigt, ça ferait un impact fois des milliards que ce que moi, je peux apporter à l'échelle individuelle. Pour autant, je pense que ces trois sphères d'action, elles sont vraiment interdépendantes les unes avec les autres. C'est-à-dire que les institutions publiques donnent des règles que les entreprises doivent respecter. Mais nous, on vote pour ces institutions publiques. Ces entreprises privées, elles nous vendent des choses que nous, on décide de consommer ou pas. On a tous quand même une carte de crédit. Et si on fait le nombre, au bout d'un moment, ils seront forcément obligés de se mettre en action et de changer aussi. Donc c'est là où il ne faut pas se démotiver et il faut se dire que si nous, on ne se met pas en mouvement, on ne pourra pas demander à la sphère privée et publique aussi de bouger à son échelle. Et c'est là où il faut essayer de rester motivé. Et quand on perd un peu d'espoir, de s'inspirer et de se nourrir de choses positives, de nouvelles imaginaires. Donc on a essayé avec ce film de créer un outil un peu comme ça, positif, de projection positive, de à quoi ça pourrait ressembler demain si on se comportait un peu tous comme ça. Et ça peut être une source de motivation, mais aussi de se rapprocher les uns des autres. Quand on partage des convictions, ça peut être plus facile de se soutenir en se serrant les coudes et en partageant nos émotions aussi parfois.
Et face par exemple aux freins économiques, politiques, il y a ces projets hybrides. On sent bien que la plupart de ces porteurs de projets, ils mettent en place des choses assez hybrides pour s'en sortir. Il y a tout l'aspect pédagogique aussi, la mise en place d'ateliers, le fait de sensibiliser. Et je trouvais qu'on en revenait au début du film où vous dites « on est citadin, on a grandi dans le béton, on n'a pas été habitué à ça et tous le disent, toutes et tous, que c'est important de changer l'imaginaire des citadins en réensauvageant la ville ».
C'est essentiel de faire de la sensibilisation et à tout âge, hein, pas que chez la jeunesse, mais chez tout citoyen, peu importe les classes sociales, peu importe la taille des villes, peu importe les pays, c'est hyper important. Et au-delà de la sensibilisation, j'irais même jusqu'à parler d'acculturation, de qu'est-ce qu'on trouve bien, qu'est-ce qu'on trouve beau. Vous voyez, nous, par exemple, en France, les jardins à la française, hyper carrés, la pelouse super bien tondue, le buisson qui est bien taillé en forme de je sais pas quoi. C'est ce qui va nous inspirer, mais en fait, écologiquement parlant, c'est une aberration et il faut se rapprocher d'une nature un peu plus sauvage, d'une nature plus indigène. Mais c'est là où il faut revoir aussi notre notion, par exemple, d'acculturation de la beauté. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui se mettent à pas tondre des ronds-points, des rebords de trottoirs et tout ça. Écologiquement, c'est hyper intéressant pour la biodiversité et pour la vie des sols. Mais on va se dire, nous, en tant que citoyens, oui, c'est pas des questions écologiques, c'est juste qu'ils ont la flemme et comme ça, ils payent un peu moins les personnes qui travaillent pour le jardinage dans les villes, et c'est tout. Donc pour montrer certaines villes, pour montrer que c'est vraiment une intention politique de mieux faire et pas juste une fainéantise et économiser du budget, ils sont obligés de tondre des petits chemins au milieu de toute cette zone sauvage pour montrer aux gens que c'est une vraie volonté. Alors que si on était plus acculturés sur le fait que la beauté et le sens de la beauté commune qu'on avait, c'était sur de la nature un peu plus sauvage, ça changerait pas mal de choses. Et ça, peu importe le sujet qu'on va aborder, c'est de la sensibilisation, déjà de comment se reconnecter à soi, comment se reconnecter aux autres, comment se reconnecter à tout l'environnement qui nous entoure, comment essayer de penser à plus grand que soi, quand c'est parfois un peu difficile de penser rien qu'à soi de temps en temps déjà. Et donc, une question de... Je pense d'acculturation, et c'est un peu le travail de toutes et tous. On a tous un entourage, on a tous des amis avec qui on communique, et juste sur la sphère personnelle, d'arriver à communiquer certaines de ces valeurs, c'est déjà chouette. Et après, avec le pouvoir du marketing dans les entreprises privées, comme de communication des institutions publiques, ils ont un énorme pouvoir d'acculturation et de sensibilisation, et c'est essentiel à grande échelle. Ouais.
Et c'est aussi le pouvoir d'un film comme un documentaire, c'est aussi une autre façon d'acculturer. On sent qu'au début c'était une quête personnelle et qu'après ça s'est transformé en film. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là de vouloir partager l'expérience et les connaissances que vous appreniez ?
Mais c'est vrai qu'au début, la quête, on voulait la faire pour nous, notre petit voyage, nos petites questions, à chercher nos réponses. Et avant de partir, on s'est dit, mais ça pourrait peut-être être chouette de partager l'aventure, peut-être que d'autres personnes se posent les mêmes questions que nous, et peut-être que si on trouve des solutions, ça peut être intéressant de les partager, et que demain, grâce à ça, ça pourrait être à peine un petit peu mieux, pourquoi pas, notre petite pierre à l'édifice. Alors au début, on ne savait pas trop comment faire. Est-ce qu'on fait des podcasts? Est-ce qu'on joue les influenceurs sur les réseaux sociaux comme tous les gens de notre âge? C'était pas trop notre truc, mais bon, est-ce qu'il faut s'essayer? Est-ce qu'on écrit un livre? Et un soir, on était devant un film documentaire et on s'est dit, on n'a qu'à faire ça. Et donc là, c'était un peu de l'ordre de la rigolade au départ, parce que quand on n'a jamais touché à un appareil photo de notre vie, on ne va pas se dire qu'on va faire un film. Et puis en fait, au bout des semaines, l'idée nous tenait toujours en tête et on a fini par s'intéresser à comment est-ce qu'on fait un film et comment tout ça. Donc d'où cette idée d'avoir après en fait une double aventure. La première, c'était notre quête personnelle avec nos petites questions. Et la deuxième, faire un film quand on n'y connaît rien. Et donc c'était un peu un challenge tout le long, avec des obstacles, des questions, parfois sans réponse, c'était pas toujours super facile. Mais c'est comme ça qu'est venue cette envie de partager. On s'est beaucoup inspiré du film Demain, je ne sais pas si vous l'avez vu. ça a été une... Oui, voilà, exactement. C'est faire une proposition d'un imaginaire positif pour le futur tout en montrant des solutions concrètes. On s'est complètement inspiré de ce film-là. Et c'était notre rêve. On avait marqué, placardé en gros d'un paperboard qu'on s'était mis dans notre chambre en colocation à Londres. On veut faire un label ville comme un Demain, sortir un film au cinéma avec plein de gens avec qui on va discuter. Il va y avoir plein d'initiatives derrière. Donc ça, c'était le rêve et on faisait en sorte de s'en rapprocher le plus possible, sachant qu'on était contents si on faisait 3000 vues sur YouTube avec notre petite vidéo. Vraiment, on voulait juste essayer de s'en rapprocher. Et étape par étape, on est arrivé à financer une partie du voyage avec le matériel. Et puis on est rentré de voyage, on a eu d'autres financements. Et puis d'un coup, on est arrivé à pouvoir monter une équipe en studio. On a été 10 à bosser pendant un an en studio. Et de plus en plus, on se rapprochait de ce rêve-là. Et quand là, aujourd'hui, je vois on est ensemble, on est en train de discuter sur le sujet de la ville. On a fait plein d'autres projections avant, on en fera encore demain, j'espère. Et c'est assez fou pour nous de se dire que ça, en fait, que ça soit un film, un bouquin, enfin, peu importe l'outil qu'on utilise, mais c'est juste de créer le dialogue, quoi. Et de pouvoir discuter, c'est une bonne excuse. Et aujourd'hui, c'est vrai que... fait de faire un film, on a envie de continuer à en faire juste pour pouvoir continuer à avoir ce dialogue-là, parce que ça nous enrichit déjà nous-mêmes que de pouvoir discuter, d'avoir vos retours, et puis si on peut faire passer rien que 1% des messages qu'on a dans la tête, c'est trop chouette.
Bonsoir, merci pour le film. Vous avez parlé d'influenceurs comme ce qu'on voit actuellement sur Internet, sur les réseaux. Pourquoi pas avoir essayé autre chose qu'un film qui a déjà été fait plusieurs fois et... Je pense que régulièrement, des petits épisodes sur différents sujets auraient permis d'aborder beaucoup plus de thématiques. Là, on ne parle pas de gestion de l'eau, eau pluviale, eau usée, eau potable. On ne parle pas de construction. Enfin, il y a plein de sujets qui pourraient être abordés. Et finalement, dans un film, on est assez limité.
Et merci beaucoup pour la question. Il y a trois gros sujets qu'on n'aborde pas dans le film. C'est l'eau, l'énergie et la mobilité. Ces trois gros sujets-là, en fait, ils sont tellement gros qu'ils méritent 90 minutes à eux-mêmes. Parce que si on avait voulu tout traiter, déjà, on survole pas mal de sujets, c'est vrai. Mais si on avait dû rajouter ces trois sujets-là dans le film pour avoir une vision complète de la ville de demain et comment, de manière écosystémique, elle peut fonctionner, soit on aurait survolé, on aurait été au pays des bisounours et on serait tous ressortis de la salle sans rien avoir appris et en s'étant un petit peu ennuyés, en ayant trouvé ça trop léger. Soit on faisait un film de 5 heures où là, on fait tous la sieste. Donc c'était inenvisageable que dans 90 minutes de mettre tous les sujets. C'est pour ça qu'on a choisi le focus reconnexion homme-ville et nature, qui nous paraissait être une bonne partie de la solution, même si c'est pas l'entièreté de la solution, ça c'est certain. Et après, on a des réseaux sociaux, ça s'appelle labelleville-lefilm sur Instagram, LinkedIn. On a créé des petites capsules vidéo sur les initiatives que vous avez découvertes dans le film. Ça a été hyper compliqué pour nous à gérer les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, en plus, on est issu école de commerce et tout, on sait faire du community management, si on a envie de faire marcher des réseaux sociaux et tout, on sait à peu près comment le faire, sauf que c'est un métier. Ça demande une énergie folle. Déjà, juste de vivre l'expérience et de faire un film quand on ne sait pas en faire un, ça prenait 300% de notre temps. Et donc, de partager du contenu sur les réseaux sociaux, faire du montage de petites capsules vidéo, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ça prend énormément de temps. Et en fait, c'était hyper frustrant parce que sur les réseaux sociaux, quand on partageait des trucs, on avait 400 likes sur une photo où on était en train de manger un tacos à Mexico City et 21 likes sur une vidéo qu'on avait pris 5 jours à monter pendant le tournage pour une petite capsule qui explique ce que Fernando fait à Mexico ou ce qu'ils font aux champignons, enfin dans des caves de champignons à Bruxelles. Et c'était très très ingrat et très dur pour nous que de partager sur les réseaux sociaux parce que en fait on se mettait à plus penser aux réseaux sociaux qu'à penser à notre propre film. On loupait certains moments qui humainement étaient passionnants et hyper intéressants parce qu'il fallait filmer, parce qu'il fallait montrer qu'on était en train de faire ça. Et en fait, on passait à côté de plein de choses. Et c'est François qui a pris un peu de hauteur par rapport à ça, parce que c'est moi qui m'occupe principalement de filmer et tout ça pour les réseaux, et qui m'a dit, tu sais quoi, Manon, t'as loupé une conversation, t'as loupé ça, et en fait, viens, on arrête, parce que c'est ingrat, on va poster que des photos de tacos, et les gens, ça les intéressera pas ou pas, mais au moins, on arrête de se prendre la tête sur ces capsules, sur ces trucs, parce qu'on y perdait du temps et beaucoup d'énergie. Et je pense que demain, si on est amené à faire un film sur un autre sujet, avec François, c'est clair et net, on veut quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de cette partie réseaux sociaux à temps plein, et que ça soit uniquement son rôle, parce que c'est vouloir tout faire, c'est un petit peu tout bâcler, et c'était un peu frustrant. On a mis 6 mois à enquêter. Donc au début, c'était très simple. On a commencé sur Google, c'était notre meilleur ami. Puis on a commencé à ouvrir un tableau Excel avec des centaines de lignes d'initiatives qui existaient partout dans le monde, de courants philosophiques sur la ville de demain et tout ça. À force de faire ces recherches, on a mis le doigt sur des experts qui avaient écrit des livres, des thèses sur le sujet aussi, qu'on s'est mis à lire. Donc là, on est rentré un peu plus dans le côté un peu plus technico et scientifique du sujet. Après, ça a été hyper difficile, parmi ces centaines et centaines de lignes, de choisir les initiatives qu'on allait aller voir ou pas. Il y a eu un premier écrémage drastique, c'était la crise Covid qui faisait que la moitié des frontières étaient fermées, donc il y a plein de pays qu'on n'a pas pu visiter. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir, mais on a fait un focus très occidental finalement, une proposition très occidentale du film, mais on aurait pu avoir d'autres propositions si les frontières n'avaient pas été fermées. Et deuxième chose, pour écrémer les initiatives qu'on allait voir ou pas, nous, on est experts du milieu du marketing et on sait à quel point c'est facile de faire croire qu'une mauvaise idée en est une bonne. On nous a appris à le faire presque. Et sauf qu'on ne sait pas comment distinguer, on n'est pas scientifique, on n'est pas expert, donc on ne sait pas comment distinguer quelle initiative a vraiment un impact positif sur le monde et de manière durable et dans le temps. Donc là, on s'est entouré d'experts, on a été sur LinkedIn, contacté des écologues, des hydrologues. On leur a dit, on a tel projet, on est paumé, on ne sait pas si ça c'est vraiment positif ou pas, éclairez-nous s'il vous plaît. Ils ont accepté. On leur a soumis notre liste d'initiatives, il y a plus de la moitié qui ont été virées. Et de là, donc, on s'est mis à contacter les personnes pour savoir s'ils étaient OK ou pas pour nous recevoir. Et c'est comme ça que ça a cheminé.
Non, c'est juste qu'à un moment, c'est Nicolas, c'est ça, je crois, qui gère les fermes urbaines entre Paris et Bruxelles. Il ne semble pas fan de... Alors, j'ai pas reconnu... Voilà, c'est ça, l'aquaponie, c'est ça. Donc oui, voilà, il y a déjà des méthodes qui...
Ouais. Les points de vue divergent.
Oui. Ouais. Et pourtant, juste avant, quand vous avez présenté cette méthode-là, on dit, ah bah, c'est un cercle fermé, une réexploitation de l'eau, des poissons, etc. C'est super. Et puis, il y a le contre-argument qui vient juste derrière. Ouais. Donc oui, je comprends que ça ne va pas être évident de faire le tri de toutes les initiatives.
Ouais, ça a été une énorme claque, ce sujet-là. Haute technologie ou pas. François, dès le départ, il n'était pas pour. Lui, il avait déjà ses convictions. Il disait, non, mais c'est n'importe quoi, faire pousser des tomates sur des toits, dans une serre, avec des bourdons qu'on intègre comme ça, en disant que ça, c'est de la nature, il n'y a même pas de sol, etc. Et moi, qui ai fait un master en management de l'innovation, pour le coup, j'étais très branchée tech, technologie, haute technologie, waouh, ça va sauver le monde. Et donc j'étais intriguée et je lui ai dit, bah, écoute, t'es pas OK pour aller voir ça, sauf que moi je suis vraiment curieuse et je veux me faire mon avis. Et toi aussi, viens, on va sur place, comme ça chacun, au moins on est sur place, on découvre et on voit ce que ça nous fait. J'avais une utopie en tête, c'était vraiment que la ville allait nourrir la ville. Et j'y croyais, mais hyper fort quand je vois ce qui se passe en campagne, comme nos sols sont pollués, etc. J'avais ça en tête. Je suis arrivée dans la serre, en même pas 2 minutes, j'avais de la tachycardie. Et je me dis, il y avait... que des hommes et des femmes en blouse blanche, on aurait dit un laboratoire. Et en fait, donc, scientifiquement parlant, en termes de nutrition et tout ça, ce qu'ils font pousser, c'est OK. Mais par contre, quel sens et quelle éthique il y a derrière, quoi. J'y ai rien ressenti du tout, voire des choses négatives et de la froideur. Et c'est vrai que quand on parle de manger, de tout ça, on parle de vivant, on parle d'un sol qui vit, d'une nature qui pousse, qui nous sert à manger, avec des agriculteurs qui travaillent la terre et pas des gars en blouse blanche. Et en fait, je me suis rendu compte que ce projet utopique que je trouvais de base fantastique, en fait, me faisait complètement peur. Et je me suis mise à penser que ces projets-là peuvent être intéressants en cas de fin du monde. Donc que ça soit des choses qui soient, si demain tout est cramé sur Terre et que ça sera notre seule façon de se nourrir, pourquoi pas ? Pour essayer de faire survivre l'humanité, on peut y penser. Mais ça peut être des projets qui sont dans des bunkers gérés par l'État en secret défense si un jour il y a cataclysme. Après, il y a d'autres façons dans la haute technologie. De toute façon, tout ce qu'on a créé de base en haute technologie ou pas vient de base de la nature. On s'en inspire de toute façon. L'aquaponie, ça rentrait pas dans le film et dans le contexte du film. On a visité des jardins infiltrants au Mexique, sur le dernier fleuve vivant de la ville. Dessus, ils font de l'aquaponie de manière naturelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment au milieu de la rivière des îlots de terre qui ont toujours été là, sur lesquels on cultive, il y a des poissons dans l'eau, il y a juste des tuyaux qui font que ça fait cette circularité et ça crée des jardins infiltrants qui sont fascinants, qui sont fertiles, et c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on le ferait sur un toit en ville alors qu'en fait on a encore des rivières vivantes, notamment en France ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à cultiver en ville autre que pour se reconnecter en tant que citadin à la nature ? Alors qu'il y a plein de choses à faire dans les campagnes, il y a plein de sols qui sont encore un petit peu vivants, il y a plein de sols qu'on peut revitaliser, qu'on peut nourrir à nouveau, qu'on peut rendre à nouveau vivants. Et c'est vrai que j'ai complètement changé d'optique et pour le coup j'ai vraiment rejoint François sur ce côté... En fait, non, la ville, elle ne va pas nourrir la ville. C'est les agriculteurs, c'est la campagne qui va nourrir les gens. Et en fait, en tant que consommateur, on est 70% de la population française à vivre en ville. En tant que consommateur, en fait, on se doit juste de soutenir les personnes qui soit font les choses bien, déjà aujourd'hui, soit qui veulent transiter, mais qui n'y arrivent pas parce que c'est compliqué. Et comment est-ce qu'on peut les soutenir et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour les soutenir ?
Ouais. Bonsoir. Merci pour ce film. En fait, j'ai été... assez convaincu sur la deuxième partie du film qui était sur l'agriculture urbaine et de comprendre qu'on ne cherche pas une autonomie mais plutôt un rapprochement avec ces filières-là. Là où j'étais moins d'accord, c'était plutôt tout ce qui était toiture végétalisée ou façade végétalisée. Enfin, vous avez fait un rapprochement entre végétaliser les villes et nature en ville, ce qui est pour moi deux choses bien distinctes qui sont que la nature en ville, en fait, c'est la recherche d'écosystèmes qu'on retrouve ailleurs qui sont en fait autonomes, qui sont fabriqués par la nature et derrière végétalisés, qui est une action humaine de plantation. Et en fait, de raccrocher ça à la fabrication de façades vertes, ça m'a un peu dérangé. Et en fait, pareil pour l'autonomie en eau, ça pose pas mal de questions. Et en fait, c'est, pour moi, la végétalisation des villes, c'est aussi à destination de qui ? Enfin, la végétalisation des façades, c'est à destination de qui ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez sur les images, c'est pour moi, c'est sur des façades de bâtiments qui sont énormes, qui appartiennent à des très grosses entreprises, qui ont les moyens. Et comme on le voyait dans le film, au pied de ces façades-là, on avait une piscine, quoi. Et aujourd'hui, la grande muraille verte qui va être faite prochainement, elle est sur la tour Total Energy à Paris, et qui est réalisée, pareil, par les paysagistes, et du coup en fait c'est quelle éthique ça porte, et on se retrouve un peu dans ce, enfin je me perds un peu, mais c'est à destination de qui, pour qui et pour quelle image, en fait c'est ça qui me dérange un peu.
Je comprends tout à fait la réflexion, et pour reprendre ce que vous disiez au départ sur la création des écosystèmes, je suis complètement d'accord avec vous. Le fait de planter fait qu'on y a l'intervention de l'homme, et donc on n'est pas dans un écosystème qui suffit à lui-même et tout ça. Sauf que cet écosystème de base sur lequel on a construit la ville a de base été détruit, et que maintenant il faut essayer de s'en rapprocher à nouveau. Donc ne pas végétaliser les façades, abandonner les villes et tout ça, aller vivre en campagne, ok, mais je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec ça. Et est-ce qu'on ferait mieux en campagne si on allait tous s'y installer ? Et du coup, détruire la ville pour pouvoir mettre de la verdure là où en fait on a déjà plus de place. Si on prend l'exemple de Paris, c'est la ville la plus dense du monde. Comment est-ce qu'on se débrouille ? Pour autant, si on n'arrive pas à recréer complètement ces écosystèmes autonomes, est-ce qu'on ne va pas chercher un peu de verticalité quand c'est le seul moyen, sachant que ce n'est pas mon préféré non plus, je suis d'accord.
la question se pose. C'est là où j'ai trouvé la réflexion de Fernandon un minimum intéressante, dans le sens où là, ça ne va pas être refaire venir de la nature en écosystème naturel comme on le connaît, mais c'est au minimum utiliser la nature, et de base le mot utiliser n'est pas génial, hein, mais utiliser cette nature pour le côté de photosynthèse, pour le côté îlot de fraîcheur en ville, pour tout ce qu'elle peut apporter en termes de bienfaits. Et c'est là où on arrive aussi sur un côté d'égalité sociale. Certes, c'est des bâtiments qui aujourd'hui, on a la sensation que ça coûte cher de le faire, sauf qu'il y a pas mal d'architectes qui aujourd'hui commencent à démontrer que le fait de végétaliser une façade, certes, ça coûte plus cher en investissement de base pour construire ou rénover l'immeuble, sauf que l'avantage, il est tel en termes d'économie d'énergie et tout ça sur l'immeuble lui-même, qu'en fait, on peut s'y retrouver. Ça, c'est le système capitalistique qui veut ça, c'est que plus on le fera, moins ça coûtera cher, et plus on pourra le faire partout. Après, ce qui pose en question aussi au niveau des inégalités, on en a beaucoup parlé avec Rudy à Chicago, qui est architecte, qui dit qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, si on rend un quartier plus sympa que ce qu'il était, si on végétalise partout des trottoirs, etc., ben, il va gagner en valeur. Il va gagner en valeur, ça veut dire que ça va être plus cher et que la population de base qui y vit ne pourra plus y vivre parce qu'en fait, ça va devenir bobo, puis après, ça va devenir bourgeois. Et puis, en fait, on déplace les populations au lieu de juste améliorer leur qualité de vie et de les faire rester sur place. Et ça, c'est tout un sujet qui est hyper intéressant quand on se met à valoriser un quartier, une ville, un bâtiment, que ça soit dans des ghettos, en hypercentre, peu importe. C'est réfléchir aussi à la mixité, à la diversité sociale qu'on veut y garder. Je pense à la ville de Nantes, avec qui j'avais beaucoup discuté, avec des assos qui avaient fait un super travail en collaboration avec la municipalité, sur le fait qu'il y ait certains quartiers autour du centre-ville de Nantes qui commençaient à devenir un petit peu bobos, et donc chers. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à garder un logement social sur deux. Ça veut dire que bah, ceux qui ont accès aux logements sociaux peuvent rester, et ça crée une espèce de diversité dans le quartier qui est socialement hyper intéressante et qui permet à tous de profiter d'un quartier et d'une qualité de vie, en fait. Je pense pas que c'est dommage que ça soit Total Energy qui puisse, dans un premier temps, se payer cette tour végétalisée. Je suis d'accord. Mais dans un sens, le système fonctionne comme ça aujourd'hui. Je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais il faut un minimum fonctionner avec pour ensuite trouver des alternatives. Je pense que pour autant, la végétalisation des villes, c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Elle est à penser.
Je vois que dans vos acteurs que vous avez ciblés, c'est aussi beaucoup d'architectes qui sont faits. Et les premiers, enfin, je parle aussi de ma formation, qui sont les paysagistes, qui sont pour moi les premiers fabricants de la ville quand on parle de végétalisation. Et on n'en voit pas dans votre reportage. Enfin, en tout cas, je ne pense pas.
Non, c'est une réalité. Après, pour autant, tous les architectes qu'on a interviewés sont accompagnés par des écologues, des hydrologues, des paysagistes dans leurs travaux. Ils ne peuvent jamais faire tout ça tout seuls, puisque de toute façon, ils n'ont pas appris à le faire. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. C'est sur les nouvelles filières, sur la construction de la ville de demain. Et quels nouveaux métiers vont pouvoir collaborer ensemble pour cette construction de la ville, et à quel point les constructeurs ont besoin de d'autres personnes qu'en fait, juste qu'ils ont toujours su faire par des formations et tout ça avant. Et pourquoi est-ce que c'est important de collaborer? Ben, par exemple, vous, en tant que paysagiste, pourquoi est-ce que ce serait intéressant de discuter avec les constructeurs, avec les promoteurs demain, ou en tant qu'écologue ou qu'hydrologue, etc. Mais clairement, c'est des sujets importants. Ouais.
Merci. Je vous souhaite déjà de faire une série pour aller voir d'autres pays que vous n'avez pas pu voir. Plusieurs idées. Vous savez peut-être, à Blois, il y a les rendez-vous de l'histoire. L'année prochaine, c'est sur le thème de la ville. Donc les rendez-vous de l'histoire peuvent devenir ponctuellement les rendez-vous du futur. Donc, ça serait bien que peut-être que vous y preniez votre place. Et je me dis, vous avez vu plusieurs pays. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, qu'en France, au niveau même des collectivités locales, territoriales, etc., enfin, déjà, qu'est-ce qui bloque, selon vous, pour pouvoir massifier, en fait, parce que c'est la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, si chacun fait que ponctuellement des petites actions, c'est bien, c'est sympa, tout ça, mais aujourd'hui, on est dans l'urgence du changement climatique, qu'est-ce qui, selon vous, bloque? Quels sont les bons exemples? Qu'est-ce qu'il faut demander à nos élus? Parce qu'on parle beaucoup de démocratie participative, de... Voilà, merci.
Merci pour la question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse complète parce que si je l'avais, je suis pas sûre d'avoir la réponse complète. Mais de mon point de vue, en tant que citoyen, il y a plein d'engagements à prendre. D'une part, on peut voter, même si on estime qu'on n'a pas toujours le choix, même quand on vote, c'est un pouvoir. On peut lutter, on peut manifester. C'est des droits qu'on a en France qui ne sont pas existants partout ailleurs. On peut agir aussi à notre échelle. On peut prendre des initiatives en collectif, que ce soit par des associations ou d'autres types de rassemblements. Et on a tous aussi un métier. Peu importe le métier qu'on fait, qu'on soit comptable, qu'on soit paysagiste, qu'on soit marketeur, peu importe le type de métier qu'on a, c'est aussi la façon dont on l'aborde, comment on a envie de travailler, pour qui on a envie de travailler. Et c'est aussi, je pense, une échelle d'action à laquelle on ne réfléchit pas toujours. On est un peu fataliste sur le métier qu'on fait, sur les entreprises pour lesquelles on travaille, mais à notre échelle, que ce soit dans notre boîte actuelle ou sur le fait de changer d'employeur, en fait, on a des petits leviers d'action qui peuvent quand même être assez intéressants. Et après, ce qu'on peut demander au pouvoir public, ça serait énorme, on pourrait leur demander beaucoup de choses, de changer l'allocation des budgets, de changer les lois, d'obliger, comme ce qu'ils font à Singapour, même si Singapour n'est pas le grand exemple de la végétalisation à prendre en compte absolument à 100%, hein, mais ou faire une loi où si on prend X sur le bâti, sur un îlot de verdure à la base, il faut retrouver de quoi soit débitumer, soit mettre de la verdure quelque part pour rattraper ces mètres carrés perdus, etc. C'est des lois à mettre en place, ils ont ce pouvoir-là, ils ont aussi un pouvoir d'incitation sur les entreprises privées qui est assez énorme, même si le lobbyisme existe encore. Ils ont ce pouvoir d'incitation et je pense que c'est ça qu'on peut leur demander, c'est de prendre leurs responsabilités pour poser des règles. Typiquement, quelque chose d'assez positif qui a tardé à arriver, mais directive européenne qui date d'il y a plus de 5 ans sur l'obligation de composter, ça y est, ça arrive le 1er janvier 2024 en France. Toutes les municipalités, et peu importe la taille, auront l'obligation de proposer une alternative, une solution pour que chaque citoyen dans leur ville puisse composter. Que ça soit en porte-à-porte, un lombricomposteur à la maison et tout ça, donc c'est chouette. Et en plus de ça, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'au-delà de les collecter, c'est de les valoriser. L'obligation, elle va jusque-là. Donc c'est chouette, et ça vient d'une directive européenne. Donc certes, ça met du temps à arriver, parce que ça, c'était il y a plus de 6 ans. Et c'est compliqué, on se dit, il y a 6 ans, il y avait une directive européenne, ça arrive que maintenant, mais en fait, on a perdu 6 ans. Mais ça arrive. Donc ça prend du temps, c'est des énormes machines décisionnelles, les institutions publiques, mais par contre, le pouvoir d'action est chouette. Et ce qu'on peut leur demander aussi, je pense, aux institutions publiques, c'est la culturation à grande échelle. Ils savent nous faire passer des messages quand il s'agit de faire baisser le chauffage parce qu'on est en crise énergétique, on voit des postes à la télé, à la radio, dans les magazines. Ils savent acculturer les gens s'il y a une urgence, s'il y a besoin de faire quelque chose pour le pays. Et c'est là où ils pourraient utiliser cette puissance de communication pour sensibiliser et acculturer sur ce genre de sujet aussi.
Merci. Et je dirais qu'il faut qu'ils accompagnent les initiatives et qu'ils ne les éteignent pas.
Oui, il y a tout un pouvoir. C'est là où je parlais d'allocation des budgets. À qui est-ce qu'on soutient et quel genre d'initiatives, notamment les associations. Et elles ont un énorme pouvoir à soutenir des initiatives parce que la plupart du temps, au-delà du fait de ne pas les soutenir, c'est que parfois même elles les écrasent parce que ça les embête et que ça ne les arrange pas. Et c'est hyper important. On avait rencontré au Mexique la ministre de Mexico City de l'Environnement, qu'on n'a malheureusement pas pu mettre dans le reportage parce que c'était un peu trop politisé. Et nous, dans le documentaire, on voulait pas de parti pris politique. Elle nous a beaucoup éclairé sur... Il y a des quartiers entiers là-bas, à Mexico City, qui sont végétalisés du sol au plafond, où il y a des jardins partagés toutes les 4 rues, enfin, où les gens ont le sourire et il fait frais, alors qu'en fait, l'air ambiant, il est à 40 degrés. Le quartier dans lequel on était, ça s'appelle La Roma, c'est un quartier qui fait 500 000 personnes. C'est la taille de Toulouse. C'est un truc incroyable. Et c'est là où on se dit, à grande échelle, c'est possible. Mais pourquoi ? Parce que les priorités politiques de cette dame en particulier ont été mises sur ce quartier, qui est un des quartiers privilégiés. Et c'est là où on en revient aussi à nos histoires d'inégalité sociale. La ville, elle fait 22 millions de personnes. Donc 500 000 personnes sur 22 millions, c'est pas si énorme. Il y a des quartiers où c'est l'enfer à Mexico City. C'est du béton, du gris, de la pollution, de la mauvaise humeur et de la délinquance qui va avec, parce qu'en fait, on n'est pas heureux dans ces quartiers-là. Alors qu'à l'échelle de 500 000 personnes à La Roma, en fait, ça peut être... on est presque à Disneyland, quoi. Et dans le monde des bisounours. Mais par contre, c'est ça qui nous donnait espoir, c'est de se dire que selon une volonté politique, à l'échelle de 500 000 personnes, même si on parle de 22 millions en tout, à l'échelle de 500 000 personnes, on peut transformer à cette échelle-là. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que ça venait d'une volonté politique que de favoriser ce quartier-là. Et donc si à l'échelle de toute une ville, on a envie de valoriser toute une ville, ça prend du temps parce que c'est les budgets, parce que c'est la politique. Tous les 5 ans, ça change. Enfin, c'est difficile aussi. Ils ont envie de se faire élire. Alors on met des choses qui font plaisir au programme, etc., etc. clairement, ils ont tout à faire en valorisant certaines initiatives et en faisant en sorte qu'elles puissent survivre et dans le temps et pas juste selon un programme et être réélu ou pas et flipper quand on est une association en fonction de l'électorat. Quoi.
C'est une belle conclusion, je crois. On pourrait discuter longtemps, mais vous pouvez continuer à discuter avec Manon autour d'un petit gâteau que Myriam a préparé. Et puis, je voulais suggérer à Manon de se présenter aux élections à Blois, aux prochaines élections. Au moins, adjoint à l'environnement, ce serait pas si mal du tout. Hein.
Et merci à Clémentine de Studio Zef pour l'animation ce soir. Merci Clémentine.